Il y aurait aussi d'autres passages un tout petit peu plus longs, mais c'était peut-être le passage qui résume un peu le tout. Alors demain, si vous avez eu la chance d'avoir les vacances scolaires, c'est la rentrée et il faut recommencer à travailler. Et le travail n'est pas toujours apprécié ou pas toujours bien vu. Des expressions comme « ça va comme un lundi » montrent bien que le travail n'est pas toujours apprécié, ou bien on entend souvent « vivement le week-end », »,« vivement que le travail soit fini ». J'ai trouvé aussi cette image, attention, danger, travail, ou bien ça, le travail c'est la santé, le travail nuit gravement à votre santé et à celle de votre entourage. Le travail, comme beaucoup de domaines de notre vie, a été marqué par le péché et a été utilisé même pour asservir des hommes. Ah oui, ça c'est un petit extrait d'une chanson, je sais pas si ça passe, sinon je passe à la suivante.
Le travail, c'est la santé. Bien fait, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot n'ont pas de vieux os.
Voilà, l'autre chanson, c'était « Je ne veux pas travailler ». Vous connaissez « Je ne veux pas travailler ». Donc tout ça pour montrer que le travail n'a pas très bonne presse, et puis il a même été utilisé dans l'histoire pour asservir les hommes. Vous connaissez peut-être cette devise qui était au-dessus du camp de Auschwitz pendant la Seconde Guerre mondiale, « Le travail rend libre », mais en fait c'était une manière d'exploiter les gens de les enfermer. Le travail a été mal utilisé et aujourd'hui encore, il est mal utilisé. Par exemple, on exploite des enfants, des fois, pour travailler. Et au milieu de tout ça, qu'en est-il de la vision chrétienne du travail? Quelle attitude le chrétien doit-il avoir face au travail? Est-ce une malédiction? Est-ce une valeur de la vie chrétienne? Est-ce une mission confiée par Dieu à l'humanité? Et quand je parle de travail, je ne parle pas seulement d'emploi rémunéré. Beaucoup d'activités peuvent être considérées comme des travaux, même si elles ne sont pas rémunérées. S'occuper d'enfants est un travail. Monter un meuble, c'est un travail. Faire un gâteau, c'est un travail. Conduire quelqu'un à l'aéroport, c'est un travail. Et il suffit en fait d'externaliser ces tâches à une entreprise et on se rend compte de la valeur de ce que c'est. Même si c'est pas un emploi rémunéré, c'est quand même du travail. Donc le bénévolat est aussi un travail, et les étudiants travaillent. Ce n'est pas un travail rémunéré, mais c'est quand même un travail. Il n'y a pas donc que les actifs qui seraient concernés par le thème du travail, mais en fait, tout le monde est considéré et est concerné par le thème du travail, les chômeurs, les retraités et les étudiants aussi. Alors, quelle doit être notre attitude face au travail? Nous entendons parfois « la foi chrétienne change la vie ». Mais en quoi la foi chrétienne change aussi notre vision du travail? Alors pour ce faire, nous allons considérer les trois thèses suivantes. Le travail fait partie de la volonté de Dieu pour l'humanité. Le travail est une forme de relation aux autres et au monde. Et enfin, le travail est une forme de relation à Dieu. Alors commençons par le premier point, le travail fait partie de la volonté de Dieu pour l'humanité. Nous avons lu Genèse 2, mais je reviens un tout petit peu en arrière. Déjà, Genèse 1 nous parle du travail. Dieu dit « Faisons les humains à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur toutes les bestioles qui fourmillent sur la terre. » Dieu créa les humains à son image, il les créa à l'image de Dieu, hommes et femmes, il les créa. Dieu les bénit, Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui fourmillent sur la terre. Alors là, j'ai maintenant mis quelques verbes en gras. En fait, ces versets, depuis le début de la Genèse, nous montrent que Dieu a créé l'homme à sa ressemblance et lui a donné la mission de dominer et de soumettre la création, de tirer profit de la création. Et ceci, c'est un travail. Par ces versets, Dieu donne à l'humanité la responsabilité d'exploiter la terre. Il lui confie donc un travail. Et nous pouvons même aller encore plus loin parce que le verset 26 fait un lien entre le fait d'être à l'image de Dieu et de travailler. Il dit « Faisons les êtres humains à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'ils dominent sur les poissons de la mer. » Le travail est un des éléments de notre ressemblance à Dieu. C'est une vocation humaine qui nous fait être en image de Dieu. Autrement dit, de même que Dieu travaille, il crée, il soutient le monde, il sauve, et bien de même l'homme a la faculté de travailler. De même que Dieu est créateur, et bien l'homme a la dignité de créer par son travail. Alors il y a quand même une différence, c'est que Dieu crée à partir de rien, alors que l'homme crée à partir de ce que Dieu a déjà donné. Il transforme, on pourrait plutôt dire. Et quelque part, on voit déjà là, même si on va revenir après, une relation d'alliance effectuée par le travail. C'est-à-dire que Dieu donne et l'homme travaille ce que Dieu a donné. Nous pouvons aussi noter par ces passages de Genèse 1 que l'homme a la mission de dominer. Donc, il ne doit pas être esclave ni d'un autre homme, ni d'une machine, puisqu'il a ce mandat de dominer la création. Nous pouvons continuer dans Genèse 2, le verset que nous avons lu. Le Seigneur Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Là, nous avons deux mots qui montrent qu'il y a une activité humaine de travail dans le jardin d'Éden, cultiver, garder. Alors, il y avait un travail. Je ne dis pas que c'était contraignant, mais il y avait une tâche de production, un travail à faire. Le travail fait partie de la condition humaine voulue par Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est que ces deux passages sont situés avant Genèse 3. Genèse 3, il se passe ce qu'on appelle la chute, c'est-à-dire une terrible rupture dans la relation de l'humanité avec Dieu. Mais déjà avant cette rupture, alors que le cadre est le cadre idéal que Dieu a voulu pour l'homme, il y a déjà le travail. Autrement dit, le travail n'est pas une conséquence de la chute, il existait déjà avant la chute. La chute a perverti les conditions du travail, a perverti même la manière de travailler, mais le travail en soi fait partie de la volonté bonne de Dieu. On peut voir dans le chapitre 3 en quoi finalement cette chute, cette rupture de l'homme avec Dieu a eu même des conséquences sur le travail. Donc, à l'homme, il dit, donc c'est le Seigneur qui juge, et qui dit, « Puisque tu as écouté ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, la terre sera maudite à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Elle fera pousser pour toi des épines et des chardons, et tu mangeras l'herbe de la campagne. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. » Alors là encore, j'ai mis en gras quelques points. Ce texte nous apprend donc que la désobéissance entre Dieu et l'homme a changé les conditions du travail. Dieu, on peut le remarquer, n'a pas maudit le travail quand il a puni l'homme, mais il en a changé les conditions. Le travail devient maintenant difficile. C'est avec la peine qu'on va travailler, c'est à la sueur de son front, il y aura même des épines qui vont pousser. Et en même temps, le travail devient éphémère, puisque le travail ne profitera pas éternellement à l'homme, puisqu'il redeviendra poussière. Et bien sûr aussi, on pourrait ajouter que les relations sociales au sein du travail sont aussi perverties, puisque la rébellion de l'homme contre Dieu a aussi entraîné une dégradation dans les relations entre les humains. Donc, on peut retenir jusqu'à présent que Dieu a voulu le travail comme une chose bonne. C'est une chose voulue par Dieu. Le travail fait partie de la condition humaine et il est même quelque chose qui permet d'être à l'image de Dieu. Mais bien plus que cela, le travail permet aussi d'entrer en relation les uns avec les autres. Et c'est le deuxième point. Le travail est une forme de relation aux autres et au monde. Le travail est un outil qui permet de construire la vie commune et de se rendre utile les uns aux autres. En fait, par le travail, on est rendu manifeste le fait que j'ai besoin des autres et que les autres ont besoin de moi. Parce qu'en fait, j'ai besoin du travail des autres et les autres ont besoin de mon travail. En fait, c'est un lien obligatoire dans la société qui nous oblige à communiquer, qui nous oblige à nous accorder et à nous servir les uns les autres. Cela montre quelque chose de l'interdépendance qui existe entre les êtres humains. Et finalement, ce lien fondamental, structurel de la société humaine nous pousse à l'humilité, puisque je reconnais que j'ai besoin du travail des autres, les autres ont besoin de mon travail, et au service. Je travaille pour les autres, de même que les autres travaillent pour moi. Et également aussi à la communication. On doit s'entendre. De quoi tu as besoin, de quelle quantité, qu'est-ce que je peux te donner en retour, etc. Et il y a là, quelque part, des valeurs profondément bibliques, l'humilité, le service, la communication. En fait, Dieu a inscrit au sein même des structures de la société quelque chose qui nous oblige à être en lien les uns avec les autres. Et si vous considériez votre travail comme un moyen de servir la société, de lui faire du bien, de la bénir? Alors, ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours visible selon le type de travail qu'on fait. C'est pourquoi je vous propose de regarder le projet global. On attribue à Charles Péguy l'histoire suivante. Au Moyen-Âge, quelqu'un interroge différents tailleurs de pierre. Alors, il va vers un premier tailleur de pierre et il lui demande « Que fais-tu ?» Et l'ouvrier répond « Vois, je taille une pierre. » Et puis, il va vers un autre ouvrier et puis il dit « Mais et toi, qu'est-ce que tu fais ?»« Moi, je nourris ma famille. » Et puis finalement, il va vers un troisième ouvrier, il lui dit « Mais toi, qu'est-ce que tu fais ?» Il répond « Je construis une cathédrale. » Les trois faisaient la même chose, mais ils n'avaient pas le même point de vue sur leur travail. Et aujourd'hui, on vit dans un monde où le travail est tellement complexifié qu'on a un peu séparé les tâches. Et parfois, quand on est inscrit dans une tâche, on voit pas que cette tâche sert à un ensemble beaucoup plus grand. D'ailleurs, il y a beaucoup d'entreprises qui dépensent beaucoup d'argent pour la communication interne, pour dire voilà ce qu'on fait nous en équipe, même si finalement le comptable ne sait pas que finalement peut-être l'entreprise fabrique des éoliennes. Il est très très loin du travail des éoliennes, il est simplement en train de manipuler quelques chiffres sur un tableur, mais il contribue à la propreté de la planète sans le savoir. Et je vous invite, si jamais vous ne trouvez pas le sens de votre travail, à regarder une vision beaucoup plus globale. Je discutais dernièrement avec un voisin qui est informaticien, qui travaille dans l'assurance, et puis il me disait « Mais c'est terrible, je sers à rien. » Il dit « Je fais mon travail, je suis très bien payé, c'est très bien, je bosse comme un fou, mais tout ce que je fais, ça sert à rien. » Et je trouve que c'est terrible de se dire que ce don que Dieu nous a donné, le travail, de penser que ça sert à rien. En fait, c'est bien si on arrive à prendre le recul et qu'on voit, eh bien, finalement, comment notre travail contribue à servir la société. Donc, dans le cas de mon voisin, eh bien, c'est se dire, la personne qui voit sa maison brûler est content qu'il y ait quand même des assurances qui existent. Et s'il peut se rendre compte de ça, il pourra donner un sens à son travail. Et je me souviens avoir entendu en vidéo Colin Powell, donc un ancien secrétaire général aux États-Unis. Bon, pas toujours eu bonne presse parce que c'est un peu lui qui a déclenché la guerre en Irak, mais alors qu'il n'y avait pas d'armes de destruction massive a priori. Mais il a un bel exemple quand même dans sa relation au travail, parce que quand il arrive dans son bureau et qu'il voyait les femmes de ménage, il les saluait, et il leur disait, eh bien, si vous ne faites pas votre travail, moi, je pourrais pas faire le mien. Donc, il valorisait le travail des autres. Et je pense que c'est bien de voir aussi son travail, pas seulement comme une tâche réduite, mais comme faisant partie d'un ensemble. Cela va redonner la dignité au travail. Et parfois, même le projet global est difficile à percevoir pour quelqu'un qui a un travail pénible, peu intéressant. Mais rien que le fait de travailler pour ne pas être à la charge des autres ou pour nourrir sa famille est déjà un projet digne. Et de telles personnes sont des héros pour leur famille. Par nos travaux, nous contribuons à la marche de la société. Le travail est aussi le lieu où, par amour, nous pouvons donner le meilleur de nous-mêmes. Cela est valorisant et cela est un acte de service pour les autres et pour le Seigneur. Alors, avant de vous lire ce passage d'où vient cette exhortation, un petit mot, parce qu'il est question des esclaves au début de ce passage. Alors, dans l'Empire romain du 1er siècle, le temps où a été écrite cette lettre, il y avait beaucoup d'esclaves, en fait. Je pense que c'est à peu près 40% même de la population qui était sous ce régime-là. C'était un type d'esclavage structurel de la société. C'est pas comme celui qu'ont pu malheureusement connaître les personnes au XVIIe, XVIIIe siècle. En fait, il y a des esclaves au temps de l'Empire romain qui avaient des postes à responsabilité, qui pouvaient être carrément gérer toute la maison, mais ils avaient le statut d'esclave quand même. Donc voilà, c'était juste pour parler de ça. Donc c'est pas non plus que je considère ceux qui travaillent comme des esclaves, bien entendu, mais je pense que, justement, ça peut nous interpeller, nous, en tant que travailleurs. Esclaves, obéissez à vos maîtres, selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de cœur, comme au Christ. Non pas seulement sous leurs yeux, comme s'il s'agissait de plaire à des humains, mais comme des esclaves du Christ, qui font de toute leur âme la volonté de Dieu. Servez de bon gré, comme des esclaves du Seigneur et non comme ceux des humains, sachant que chacun, esclave ou homme libre, recueillera du Seigneur le bien qu'il aura lui-même fait. Et c'est intéressant de voir que dans ce passage, l'apôtre est en train de dire, vous n'êtes pas même pas en train de travailler pour votre patron, vous travaillez pour le Seigneur. Alors que peut-être l'esclave pensait quand même qu'il travaillait pour un patron à vue humaine. Mais non, ça avait des conséquences éternelles. Le pasteur Martin Luther King, dont nous fêtons cette année l'anniversaire des 50 ans de sa mort, disait « Il n'y a pas de travail insignifiant. Tout travail qui aide l'humanité a de la dignité et de l'importance. Il doit être entrepris avec une perfection qui ne recule pas devant la peine. Celui qui est appelé à être balayeur de rue doit balayer comme Michel-Ange peignait ou comme Beethoven composait ou comme Shakespeare écrivait. Il doit balayer les rues si parfaitement que les hôtes des cieux et de la terre s'arrêteront pour dire « Ici vécut un grand balayeur de rue qui fit bien son travail. » La manière d'effectuer notre travail honore Dieu et les autres. Le travail, c'est aussi le lieu des relations interpersonnelles. Le travail est un lieu privilégié pour vivre les relations interpersonnel. Qu'on le veuille ou non, nous avons des relations au travail. Et il y a toute une série de commandements de la Bible sur les relations les uns avec les autres. Et finalement, le travail est un bon lieu pour s'exercer à appliquer ces recommandations. Alors, je vous en ai mis quelques-unes. Aimez-vous les uns les autres. Domestiques, soyez en toute crainte, soumis à vos maîtres, non pas seulement à ceux qui sont bons ou conciliants, mais aussi à ceux qui sont difficiles, car c'est une grâce que de supporter les peines par conscience de Dieu quand on souffre injustement. Et on pourrait encore multiplier les exemples. Alors le terme « soumission » qu'on retrouve dans ce verset est aujourd'hui parfois mal compris. Il s'agit de reconnaître l'autorité de l'autre, ce n'est pas synonyme de s'écraser sans rien dire. Et dans ce sens-là, le chrétien peut être aussi celui qui se fait porte-parole pour des bonnes conditions au travail. Il peut être celui qui va essayer d'apaiser les relations conflictuelles et qu'il sera là aussi pour défendre l'intérêt des autres. Il peut même être parfois appelé à affronter les autres, c'est-à-dire exprimer son désaccord. Mais cela ne veut pas dire qu'il va forcément manquer de respect, un petit peu comme Jésus à son procès, qui, bien qu'il ne se soit pas révolté, a quand même montré qu'il ne se laissait pas marcher sur les pieds. Donc on le gifle sans raison, et donc voilà le texte de Jean 18. À ces mots, un des gardes qui était là donna une gifle à Jésus, disant « Est-ce ainsi que tu réponds au grand prêtre ?» Jésus lui répondit, « Si j'ai mal parlé, prouve-le, et si j'ai bien parlé, pourquoi me battu ?» Donc vous voyez là l'exemple de Jésus, dans toute l'humilité que l'on connaît de Jésus, il a quand même été celui qui s'est défendu lorsque c'était le moment de le faire, tout en se laissant, comme vous le savez, condamner injustement. Donc voilà, tout ça pour dire que le travail est le lieu du bon exercice des relations humaines, de l'amour, du pardon, du service, mais aussi le lieu où on peut confronter les gens s'ils agissent de manière injuste. Et donc, nous pouvons maintenant parler du troisième point, le travail est une forme de relation à Dieu. Alors, nous l'avons déjà dit qu'il y a une alliance entre Dieu et les hommes dans le fait que Dieu donne la matière et que l'homme la transforme. Mais nous allons essayer d'aller un petit peu plus loin. Le premier point que j'aimerais dire, c'est que le travail est une forme de relation à Dieu, qu'il soit ce qu'on appelle les travaux séculiers ou les travaux ecclésiaux, ce qui soit lié à l'Église ou pas. Et souvent dans nos têtes, nous séparons le travail séculier du travail ecclésial. Nous avons d'un côté le travail, on va dire, dans la société, et puis l'autre, le travail pour Dieu et son Église. Mais en fait, cette séparation vient du Moyen-Âge et même d'avant de l'Antiquité. Dans l'Antiquité, le travail manuel était souvent négligé. Les chanceux pouvaient déléguer les tâches matérielles à des esclaves pour se consacrer à la politique, à la philosophie ou à la littérature. Par exemple, Platon, dans La République, écrit « La nature n'a fait ni cordonnier ni forgeron, de pareilles occupations dégradent les gens qui les exercent. » Mais la Bible ne va jamais dans ce sens-là. Elle a une haute opinion du travail. Au Moyen-Âge, encore, on a continué à séparer un petit peu l'idéal du clergé et en comparaison avec celui du paysan. Il y avait en fait trois ordres. Il y avait la noblesse. La noblesse, elle jugeait, elle guerroyait, elle protégeait. Il y avait le paysan qui travaillait la terre, mais qui était même lié à la terre. Hein, et c'était un servage. Et il y avait le clergé qui, lui, ben, il prie, il enseigne, il officie, il instruit, il soigne et il assiste. Et peu à peu, des abus naissent et les inégalités augmentent. Et la vie ecclésiale est considérée comme supérieure à la vie du travail agricole. L'idéal du moine voit le jour et on pense qu'il est mieux vu d'être un ecclésiastique qu'un paysan. Donc ça, c'était au Moyen-Âge. Et à la réforme protestante, eh bien, on va combattre ces idées. Les notions de service et d'intendance vont être remises en valeur et on va comprendre qu'il est possible de vivre sa vocation même dans le travail séculier. Les réformateurs vont affirmer que tout le monde est prêtre et que toute œuvre inspirée par la foi peut être sainte et bonne. La réforme affirme que tout croyant a la dignité de prêtre devant Dieu et qu'à ce titre, son travail a la même importance qu'un travail ecclésiastique. Alors, Luther, voilà ce qu'on peut lire de lui. Entre laïc, prêtre, prince, évêque, et comme ils disent, entre le clergé et le siècle, il n'existe au fond vraiment aucune autre différence si ce n'est celle qui provient de la fonction ou de la tâche et non pas de l'État, car tous appartiennent à l'État ecclésiastique. Ils sont vraiment prêtres, évêques et papes, mais tous n'ont pas la même sorte de tâche à remplir. Comme parmi les prêtres non plus, tous ne se voient pas confier la même sorte de tâche. Un savetier, un forgeron, un paysan ont chacun la tâche et la fonction de leur métier. Et pourtant, tous sont également consacrés prêtres et évêques, et chacun doit, en remplissant sa tâche ou sa fonction, se rendre utile et secourable afin que, de la sorte, ces tâches multiples concourent à un but commun pour le grand bien de l'âme et du corps, tout comme les membres du corps se rendent mutuellement service. Autrement dit, Luther affirme que nous sommes tous prêtres, nous sommes tous rendus aptes à rendre un culte à Dieu, donc il n'y a pas de différence de nature, mais il y a une différence de fonction. Tous n'ont pas la même fonction dans la société. Mais c'est pas qu'ils n'ont pas la même dignité, ils ont simplement pas la même fonction. Ils ont la même nature, mais pas la même fonction. Tout le monde n'exprime pas le culte de la même manière, avec la même activité. Mais tous travaillent pour la gloire de Dieu. Paul disait déjà en 1 Corinthiens 10:31, « Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » On peut installer un réseau informatique pour la gloire de Dieu. On peut préparer un gâteau pour la gloire de Dieu. On peut faire le ménage pour la gloire de Dieu. On peut construire une maison pour la gloire de Dieu. Quoi que vous fassiez, faites-le pour la gloire de Dieu. Et quelque part, on peut prier en posant du carrelage. On peut prier, louer Dieu, prier pour les gens qui nous entourent. Et donc, on peut rendre un culte à Dieu en faisant du carrelage. À l'inverse, on peut préparer une prédication pour de mauvaises raisons. Par exemple, pour être applaudi, ou pour de manière orgueilleuse, ou pour de manière rancunière. Et quelque part, on peut poser du carrelage en rendant plus un culte à Dieu qu'en préparant une prédication. Alors là, il y a une petite blague, si vous me permettez une pointe d'humour, entre un chauffeur de bus et un pasteur. Donc les deux décèdent, et puis arrivés au ciel, on fait un grand accueil au chauffeur de bus, et puis le pasteur, bon, on le fait aussi entrer, mais plus modestement. Et puis il dit, mais je comprends pas, moi j'ai donné toute ma vie là, pourquoi lui il a un grand accueil et pas moi? Puis on lui répond, mais c'est très simple, quand vous prêchiez, tout le monde dormait, alors que quand lui conduisait, tout le monde priait. Calvin écrira, nous avons aussi à observer diligemment, c'est-à-dire avec rapidité, efficacité, zèle, que Dieu commande à chacun de nous de regarder sa vocation en tous les actes de sa vie. Il a ordonné à chacun ce qu'il aurait à faire. Il n'y aura œuvre ni méprisée ni si basse qui ne reluise devant Dieu et ne soit fort précieuse, moyennant qu'en elle nous servions notre vocation. En d'autres mots, dans tout ce que nous faisons, nous pouvons y voir un service pour Dieu, à condition que nous restions dans sa volonté. Donc les idées de la réforme annulent que la tâche de prêtre est supérieure à une autre tâche. Alors peut-être aujourd'hui on est tombé dans l'excès inverse, mais bon, ça c'est une autre histoire. La question n'est donc pas de savoir quelle catégorie de travaux ecclésiastiques ou séculiers honore le plus le Seigneur. La question est de savoir quelle est ma vocation. Parce que ce soit un travail séculier ou ecclésiastique, les deux honorent le Seigneur. La question est de savoir simplement quelle est ma vocation, à quoi m'appelle le Seigneur? M'a-t-il donné des dons particuliers, un fardeau spécial pour exercer un métier à plein temps tourné vers son Église? Et que l'on réponde oui ou non à cette question, nous servons le Seigneur, seulement nous le faisons dans des fonctions différentes, selon la diversité que le Seigneur a dans son Église. Alors le travail est une manière de vivre notre relation à Dieu, car ce que nous faisons, nous le vivons devant Dieu. Dieu nous voit lorsque l'on travaille. Dieu nous demandera des comptes sur notre manière de vivre et de travailler. Et Dieu est avec nous au travail. Il est là aussi pour nous secourir, et nous pouvons prier au travail. Alors quand je dis ça, je ne dis pas forcément qu'il faut s'arrêter de travailler, mais tout en travaillant, nous pouvons prier dans notre tête, hein, je l'entends. Après, si on est tout seul, on peut faire à voix haute, mais voilà, prier, le Seigneur est là dans notre travail. La spiritualité n'est pas déconnectée des réalités de la vie. C'est finalement dans les structures de la création que nous montrons notre spiritualité. La foi se vit dans la société. En fait, le dimanche, on recharge ses batteries pour les vider dans la semaine. C'est là que nous exerçons notre foi, que nous montrons notre plus grande fidélité à Dieu. Finalement, c'est pas le dimanche que nous allons montrer notre plus grande fidélité à Dieu. C'est facile de vivre la foi dans l'Église. Ce qui est plus difficile, c'est de la vivre en dehors. Et c'est à ça que nous sommes appelés. Quand j'étais prof, eh bien, c'est quand j'étais devant les élèves que je devais faire preuve d'amour. C'est là qu'était testée ma patience, ma persévérance. Et c'était pas facile. Et lorsque je suis assis sur une chaise le dimanche, et c'est important aussi parce que je reçois l'enseignement, je loue le Seigneur, mais c'est pas là que je peux prouver ma plus grande fidélité au Seigneur. Ma vie chrétienne se vit dans les structures de la création. Le travail est aussi un lieu de témoignage. Alors, je ne vais pas au travail en premier pour témoigner, je vais en premier pour travailler, mais c'est aussi l'occasion de témoigner. Déjà, par mon travail bien fait, je témoigne. Et en plus, des occasions vont venir pour parler. 1 Pierre 2, 12 nous dit « Ayez une belle conduite parmi les gens des nations, pour que sur le point même où l'on vous accuse de faire le mal, ils voient vos belles œuvres et glorifient Dieu au jour de son intervention. » Donc même dans nos œuvres, dans notre travail, nous rendons un témoignage au Seigneur si nous le faisons bien. 1 Pierre 2, 15 aussi dit « Car voici ce que Dieu veut, c'est qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence toutes les calomnies portées contre vous par les insensés et les ignorants. » Donc même par nos œuvres, nous apportons un témoignage. Et Billy Graham, qui est décédé il y a quelques jours, vous le savez peut-être, ce grand prédicateur américain a eu l'occasion de voyager dans le monde entier et il a même eu l'occasion de prêcher dans des pays communistes avant que la chute du rideau de fer. Et il a entendu un chef d'État lui dire « Je préfère un chrétien qui travaille bien qu'un athée qui travaille mal. » Et donc aujourd'hui, peut-être cette phrase peut nous sembler simple, mais dans un pays derrière le bloc communiste, qu'un chef d'État avoue cela, ce n'était pas rien. Donc par le travail, le chrétien peut se faire apprécier et peut rendre gloire au Seigneur. Et puis bien sûr, le travail, c'est aussi le lieu où on a des discussions, simplement en discutant avec les gens. Les gens nous demandent parfois « qu'est-ce que tu as fait ce week-end ?» Eh bien au travail, c'est aussi là qu'on peut dire qu'on est allé à l'église, qu'on a appris des choses et témoigner de notre foi. Le travail permet aussi de subvenir aux besoins des pauvres. Éphésiens 4, 28 « Que le voleur ne vole plus, qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. » Donc l'apôtre Paul demande au voleur, bon, déjà qu'il arrête de voler, et qu'il travaille, et pourquoi ? Pour donner à celui qui est dans le besoin. Effectivement, le travail permet de gagner de l'argent, et cet argent permet de soutenir les personnes qui sont dans le besoin. Cet argent permet aussi de soutenir le travail missionnaire, qui n'est pas possible sans argent. Donc voilà, le travail, c'est aussi une forme d'assistance pour les autres. Et enfin, j'aimerais, avant de terminer, parler aussi de l'équilibre apporté par Dieu dans notre relation au travail. Le fait de comprendre le travail comme un don de Dieu permet de ne pas tomber dans deux écueils. La première écueil, ce serait de sous-évaluer le travail. Et j'espère que cette prédication vous aura montré que le travail a une grande part, il fait partie de la volonté de Dieu, il est voulu par Dieu, et donc il n'est pas à négliger. La préparation du travail aussi n'est pas négligée. J'entends là par les études aussi, pour pouvoir honorer le Seigneur avec toute la force et les facultés qu'il nous a données. Mais le deuxième écueil, ce serait de surévaluer le travail. Le travail est donné par Dieu, il n'est pas Dieu. Adorer le travail, ou alors adorer le fruit de son travail, c'est de l'idolâtrie. Ça fait perdre à l'homme, finalement, sa dignité qui doit être de dominer la terre et pas de s'en rendre esclave. Donc, il ne faut ni sous-évaluer le travail, ni sur-évaluer le travail. Dieu a posé des limites au travail. Il a fourni un cadre à respecter. Et ce cadre se base sur l'exemple même de Dieu. C'est ce que nous lisons dans l'ordonnance du sabbat, en Genèse 20, 8 à 11. Exode 20, pardon, 8 à 11. « Souviens-toi du sabbat pour en faire un jour sacré. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour, c'est un sabbat pour le Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni les immigrés qui sont dans tes villes, Car en six jours, le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le sabbat et en a fait un jour sacré. Le sabbat nous rappelle que Dieu reste souverain sur la création, que la terre va continuer de tourner, même si nous nous arrêtons de travailler. De même que le Seigneur s'est arrêté au bout de six jours de création, et bien de même, il nous demande de nous arrêter. Respecter le sabbat, c'est aussi une preuve, un témoignage de notre dépendance à Dieu. On fait confiance que même si on s'arrête, eh bien, Dieu va pourvoir à nos besoins, la terre va continuer de tourner. Ainsi, vivre le travail dans ma relation à Dieu permet d'avoir un équilibre aussi et de ne pas tomber dans le piège d'en faire une idole. Alors, pour conclure, le travail est bon, il fait partie de la condition humaine voulue par Dieu. Le travail est une occasion de se rendre mutuellement service. Et le travail honore Dieu. Nous sommes appelés à faire toutes choses pour la gloire de Dieu. Alors j'espère que ces pensées nous motiveront et que dès demain matin, nous pourrons mettre ces choses en pratique.